c'est toujours un soir à Paris et c'est une émission assez exceptionnelle, je dois dire. On y pense depuis quelques temps déjà, avec l'une des complices d'un soir à Paris, avec Adeline Anfray, les 35 ans de l'Empereur. C'est ainsi que j'ai pris l'habitude de le surnommer depuis quelques temps, lui qui règne en maître sur le pays des songes et des rêves enchanteurs, en quelque sorte. J'ai le plaisir d'accueillir avec vous jusqu'à 22h30 et en direct des studios de France Bleu 107.1, l'Empereur soi-même, Marc Dorcel. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Un grand merci d'être avec nous.
Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi.
Et en parlant d'Empereur d'ailleurs, j'étais pas si loin parce qu'on partageait quelques souvenirs de cette très très belle soirée d'anniversaire, 35 ans, on va évidemment en parler jusqu'à 22h30, et au Chalet des Îles, cette grande soirée belle, magnifique, costumée, onirique, les filles étaient tellement belles, chic, sublissimes, vous étiez très empire vous-même, en maréchal d'empire, Marc, c'est bien vous que j'ai vu.
Oui, hein. Oui, bah absolument, moi j'ai une admiration un petit peu pour cette période, la période empire, et d'autre part, les uniformes à l'époque étaient magnifiques. Et j'ai trouvé que maréchal d'Empire, bah, ça m'irait pas mal.
Oui, je dois dire que ça vous allait assez bien. Oui.
Merci.
Marc, qu'est-ce que vous vous êtes dit tout au long de cette soirée d'ailleurs? J'ai beaucoup pensé à vous, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'amis. À un moment donné, vous êtes apparu au balcon comme un empereur, il n'y a pas d'autre mot. Tout le monde vous a salué avec affection, tendresse, dévotion. Il y a même un jeune garçon qui était juste devant moi qui vous a serré la main en vous disant « Merci Monsieur Dorcel pour tout ce que vous avez fait, pour votre œuvre ». J'ai trouvé ça très, très beau et très touchant.
Oui, je suis très humble. Et puis bon, évidemment, ça me fait plaisir. Mais qui aurait pu croire, il y a quelques années encore, qu'il y aurait cet aboutissement avec fêter des fêtes grandioses comme le 35e anniversaire, avec presque 2500 invités. Et tout le monde a joué le jeu, tout le monde était costumé. Puisque c'était le bal masqué de Monsieur Dorcel.
C'est ça.
Ben, tout le monde a joué le jeu. Et j'étais très étonné parce que ce n'est pas évident d'aller louer les costumes. Mais je pense que les gens aiment ça. Puis il n'y en a pas tellement à Paris. Donc,
Ah, puis je vais vous dire, Marc Dorcel, ce n'est pas tous les jours qu'on est invité par Monsieur Dorcel quand même.
Oui,
parce qu'il faut dire les choses. Premier film en 1979, on va d'ailleurs écouter un extrait dans quelques instants, tout a commencé comme ça. Pendant ces 35 ans, vous nous avez accompagnés dans nos vies d'hommes, et puis de femmes de plus en plus d'ailleurs. Ça, Adeline Anfray s'en fait suffisamment l'écho. Le X n'est pas simplement dédié à la gente masculine, ça s'est largement démocratisé depuis. Mais 35 ans quand même à filmer, 35 ans à nous raconter ces histoires.
Oui, bon,
de corps à corps.
Oui. En fait, quand j'ai démarré le premier film, c'était un petit peu à mon insu, parce que moi, j'étais plutôt éditeur de romans photos.
Oui.
Donc, on m'a forcé un petit peu la main, et j'étais pratiquement, ce qui est drôle d'ailleurs, le premier à tourner en vidéo directe un long métrage. Et c'est ce qui a fait le succès de Marc Dorcel, puisque à l'époque, tourner directement en vidéo correspondait à la vision, à voir comme une émission en direct dans sa télé. Alors que les autres, mes concurrents qui vendaient aussi des films pour adultes, transcodaient des films tournés en 35 mm en vidéo. Et la technique à l'époque n'était pas tellement élaborée comme maintenant. Et ça provoquait comme un bruit d'image, comme de la neige.
C'est ça.
Alors que moi, c'était vraiment du direct.
Oui, oui, oui.
Et ça a été vraiment un succès colossal.
Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, voilà, dès ce premier long métrage, il y a déjà un choc, je trouve, esthétique. L'image, déjà, elle change. C'est-à-dire que vous êtes déjà, à ce moment-là, Marc Dorcel, précurseur. Et ça, ça ne va jamais vous lâcher. Vous l'avez toujours été. Vous avez toujours eu un coup d'avance.
Oui, c'est parce que déjà, lorsque je faisais mes romans photos,
oui.
Les romans photos, bon, bah, c'était déjà très sophistiqué. Il y avait des castings, comme si j'avais fait un film. Casting, alors les castings, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Les filles devaient être splendides. Le stylisme était très, très important. Maquillage, etc. Les lieux. Et puis, j'ai jamais oublié qu'il fallait donner du rêve.
Eh oui.
Et alors, lorsque j'ai tourné le premier film... D'ailleurs, j'en suis pas fier parce que quand je regarde
ah
ce que
oui.
j'ai fait pour la première fois,
ouais.
bon, c'était vraiment naïf. C'était un petit truc que j'ai tourné avec un synopsis écrit sur 3 pages, comme si j'avais fait un roman photo. Mais il faut dire que j'ai engagé les plus belles actrices de l'époque. Les lieux étaient très chouettes. La technique était épouvantable. Mais ça m'a mis le pied à l'étrier et c'est comme ça que j'ai démarré.
Retour sur image en 1979, première réalisation de Marc Dorcel. En très court extrait, mais on est là pour se faire plaisir aussi, les jolies petites garces.
Ils sont jolis tes cheveux.
Ah, tu trouves ? Surtout ce matin.
Mais dis donc.
T'as vu mon
cheveu ? Oui, tu fais des ailes. Hein. C'est très très joli.
Du zèle.
Descends. Non. Allez, descends là.
Regarde.
Si, fais-moi plaisir.
Et montre-moi la tienne. Pas mal aussi.
Non, mais tu trouves vraiment qu'on se ressemble, toi ?
Oh oui, quand même. Regarde mes seins.
Ah oui.
Ils sont presque pareils que les tiens.
C'est vrai, t'as raison. Dis donc, et qu'est-ce que t'as fait de Marc ?
Marc ? N'en parle plus.
Attends, viens, laisse-moi toucher.
T'es toujours en train de mettre tes mains là.
Oui.
Fais voir, toi.
Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais...
Ça te démange ?
Non, c'est pas le mot, mais... Je sais pas... Oui, je voudrais qu'on se regarde toutes les deux devant la glace. Voir si on est pareil.
Oh, bah écoute, on s'est déjà vu tellement de fois, regarde comment on est.
C'est génial d'entendre ça à la radio. Là, je mets à la place de celles et ceux qui sont de l'autre côté du poste dans leur voiture ou comme Adeline dans les bouchons, elle va bientôt nous rejoindre. Mais c'est très efficace, c'est en 1979 ça. Mais elles jouent drôlement juste en même temps ces comédiennes là. On est dans la caméra vérité en quelque sorte.
Oui, mais bon,
oui, Marc Dorcel.
C'était pas leur coup d'essai de toute façon, puisque les actrices que j'ai engagées tournaient déjà dans les longs métrages pour d'autres réalisateurs en 35 mm. Oui. Et elles savaient très très bien jouer la comédie puisque... Moi, c'était un petit truc de 60 minutes que j'ai tourné. Il n'y avait pas des gros textes à apprendre, il n'y avait pas grand-chose. Alors qu'elles avaient fait leurs preuves dans des lourdes productions. Donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là.
Marc, ça m'a toujours intrigué, ça. Je me suis dit, bon, parce que c'est devenu un empire, on le sait. Les États-Unis ont Hugh Hefner, Larry Flint, l'Europe a... À Marc Dorcel, la France, Cocorico, là on est un peu champion du monde quand même avec vous, il faut dire les choses.
C'est vrai qu'en Europe, maintenant, bon, on peut considérer qu'on est le dernier des Mohicans, puisque vérité, il y a. Bon, Marc Dorcel rayonne actuellement dans plus de 60 pays où on vend des DVD, où on diffuse notre chaîne télé.
Et c'est justement ça qui est formidable, c'est que la caméra vidéo à l'époque où les autres sont encore en train de reformater les 35 mm sans être trop technique, la VHS dans ses tout débuts, vous avez été pionnier.
Absolument.
Et ça fait exploser en même temps. Et c'est là, vraiment les tout débuts de la démocratisation du VIX. On est sorti des salles obscures, bon, pour d'autres raisons encore.
Tout à fait, oui.
Mais vous avez admirablement surfé. Après la VHS, le DVD, et quand le DVD commence à décliner, paf, vous investissez Internet. Et aujourd'hui, le site marcdorcel.com, c'est inouï.
Entre autres, il y a eu aussi la 3D.
Eh oui,
on a
été
aussi des pionniers là-dedans, puisqu'on a produit plus de 100 programmes qui étaient très très chers à produire, étant donné la sophistication des installations caméras et autres. Bon, malheureusement, ça n'a pas eu le succès espéré, parce que tant qu'on mettra des lunettes, la 3D, bah, elle aura du mal à décoller.
Ouais, ouais.
Néanmoins, il y a quand même des chaînes de télé qui s'étaient mises à la 3D. Et en plus, on était encore précurseurs là-dedans, puisqu'on a été les premiers à pouvoir vendre des programmes aux chaînes.
Ouais.
Et on a même distribué des DVD en version érotique pour le grand public.
Absolument.
Voilà.
Mais ce coup d'avance que vous avez toujours eu, parce que vraiment, vous vous êtes posé des questions, vous l'avez anticipé, c'est pas que de la chance non plus.
Non, là, c'est pas de la chance, mais le porno, en vérité, a toujours été à l'avant-garde de la technologie.
Ouais,
dès qu'il y a une nouvelle technique qui arrive, on est les premiers à s'en servir et à l'exploiter. Et ça a été le cas pour le DVD, par exemple. Je me souviens qu'on a été pratiquement les premiers à presser un DVD tourné en vidéo aussi direct. Alors que les DVD... était conçu à partir de films cinématographiques. Et alors, la technique, encore au début, était très, très difficile, parce que la vidéo prenait énormément de place. Je parle technique pour la compression du DVD.
Bien sûr.
Mais bon, on a quand même réussi. Et je me souviens que le premier film qu'on a pressé en DVD, il a été pressé par une boîte prestigieuse, Pionnier, vous voyez, malgré ça.
Ouais.
Et c'est un bon film que j'aime beaucoup.
Ouais.
Le parfum de Mathilde.
Alors justement, voilà. Moi aussi, je l'aime beaucoup, ce film. Ce film, vous le réalisez vous-même. On est en 1994. Ce sont les derniers moments de tournage, je crois, pour Julia Chanel. Elle va passer à autre chose.
C'était le dernier, d'ailleurs.
C'était le dernier, on est bien d'accord. Et puis en même temps, c'est la révélation pour beaucoup d'entre nous. Draguixa.
Absolument.
On la retrouve dans le tout premier plan, les tout premiers instants du parfum de Mathilde. Le film est devenu absolument cultissime.
Descends, ma chérie, veux-tu ?
Tu as entendu ce qu'a dit ton oncle ? Cette robe que nous t'offrons est destinée à séduire ton mari. Elle se porte à même la peau.
Tu peux la passer ? Qu'on puisse te voir tout de suite ?
Maintenant, là, ici, tout de suite ? Pas devant...
Oh, c'est Robert qui te gêne ? Tu as tort. Nous n'avons rien à lui cacher. Puis tu n'es plus au collège et maintenant il est temps pour toi de connaître certaines choses. Le corps d'une femme doit être un objet de désir. Anna, montre-toi à Robert. Et toi, regarde bien ce que ta tante va faire. Relève ta jupe, Anna. Caresse-toi. Robert te regarde. Tu vois, ma nièce, comme ta tante se branle bien.
C'est délicieux. C'est délicieux. Alors là, moi, je trouve que là, il y a la vraie French touch. Et là, il y a vraiment la Marc Dorcel touch. Parce que le plan, on se refait les images. Draguixa, cette jeune nièce qui va s'éveiller au plaisir... du corps, de la chair, elle descend quand même d'une voiture, une Rolls, une Bentley, je crois. Ce qu'elle porte sur elle, c'est soyeux, c'est la lingerie fine. On est dans le chic, on est dans le très bon goût, on est dans le très bon ton, on est dans le bon chic, bon genre avec Marc Dorcel, moi je trouve. C'est aussi votre signature, ça, Marc ?
Ben oui, effectivement, j'ai toujours fait des films bon chic, bon genre. On appelle ça, on a même décrié les films en disant les films à la papa. Moi, je crois pas que c'est des films à la papa. C'est des films classieux.
Oui, oui.
Toujours tournés dans des super décors, avec des belles nanas, du stylisme, une belle technique, des belles images. Et je crois que c'est ça, le succès. C'est que j'ai toujours cherché à faire du réalisme. J'ai toujours cherché à faire des films où le client potentiel qui aime ce genre puisse s'identifier à l'image. Puisse s'identifier au personnage. Et ça, pour moi, c'était très important. Qu'on y croit, voilà.
Moi, je trouve que vous inscrivez dans cette belle tradition qui est la nôtre, cet art de vivre à la française, justement. Vous avez conscience de ça ?
Oui. Ben oui, on peut le supposer. Oui, la belle vie,
oui.
les belles nanas, les belles demeures. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de mieux, hein ?
Évidemment. On salue l'entrée dans nos studios d'Adeline Enfray qui
Bonsoir.
Ici est chez elle. Salut Adeline, tu vas bien ?
Ça va très bien.
Un grand plaisir, on commence à s'inquiéter un peu.
Oui.
Et on a juste un peu commencé sans toi en fait.
Les aléas de la circulation parisienne.
Adeline Enfray, si vous êtes habitué à cette émission, vous le savez, elle dirige la communication maintenant de Marc Dorcel. Et c'est aussi à elle, puisqu'on a commencé à parler un peu en son absence, qu'on doit cette très belle soirée, entre beaucoup d'autres choses, du 35e anniversaire. C'était tout à l'heure, on va garder ça évidemment longtemps à l'esprit, au très beau Chalet des Îles, au
Poète Boulogne. Pas que moi, mais...
Il y avait toi aussi, bien sûr.
J'y étais.
Comment est-ce qu'on travaille un jour pour Marc Dorcel d'ailleurs ? Comment est-ce que vous êtes rencontrés tous les deux ?
Ben, je crois que c'est au MIPCOM ou MIPTV à Cannes.
Exactement, c'est un organisateur de salon.
Va raconter un petit peu comment ça s'est passé.
Le MIP, c'est un organisateur de salon professionnel de l'audiovisuel. Et moi, je faisais partie de j'aidais les exposants à entrer en contact avec tous les médias présents. Et du coup, l'entreprise Marc Dorcel a fait appel à moi pour rentrer en contact avec des journalistes parce qu'ils organisaient une soirée. Ils voulaient en faire un petit peu parler. Et ça s'est fait comme ça. Moi, je suis passée chez le client, comme on dit.
C'est génial.
Dans l'entreprise.
Qu'est-ce que tu savais de Marc Dorcel, toi ? Tu es d'une autre génération, tu es une jeune femme.
Ben moi, je faisais partie des plus de 50% de Français qui connaissent bien la marque, en tout cas de nom. Donc je savais exactement dans quoi je mettais les pieds. Et je savais aussi que c'était, sans être une grande amateur des films, parce que c'était pas forcément un contenu que je connaissais sur le bout des doigts, je savais que c'était de la pornographie d'une autre qualité de ce qu'on peut trouver un peu partout sur le net. Donc je m'inquiétais pas trop, je savais que les gens travaillaient pas tout nus.
Dommage.
Ben oui,
mais... Ça flingue un fantasme. Moi, j'étais convaincu que tout le monde était un peu à poil.
C'est un fantasme.
Ben évidemment. Alors, mais c'est intéressant, justement, parce que on parlait de la façon dont vous avez toujours eu un coup d'avance. Vous êtes associé les services d'une jeune fille, bien dans son temps, Aline Anfray. Je ne vais pas dire tout le bien que je pense d'elle. En plus, elle est ici. Je n'ai pas envie de la mettre mal à l'aise. Mais je trouve très, très bien vu, très intelligent, le fait de s'être associé, justement, au chapitre à direction de la communication, les services justement d'une jeune femme comme Adeline. Pourquoi elle ? Pourquoi une femme ?
Parce que, non mais,
attention Marc, hein, j'écoute.
J'ai toujours préféré avoir eu des femmes en tant qu'attachée de presse. Et indépendamment de ça, bon, bah, elle est très professionnelle. Elle a fait ses preuves. Elle a été tout de suite... Bon, elle n'a pas eu d'appréhension comme certaines auraient pu en avoir pour travailler pour Marc Dorcel. Parce que Marc Dorcel... C'est synonyme quand même du sulfureux.
Luxure depuis 1979,
de
dites-vous.
Ouais. Et vous assumez. Sulfureux. Ouais. N'empêche qu'elle a foncé, et puis je crois qu'elle n'est pas très mécontente. Elle n'est pas mécontente. Hein.
Non, et j'ajouterais que d'habitude, j'arrive à l'heure au rendez-vous.
Oui, tu es toujours ponctuel. Ça, je peux en témoigner. Marc, je reviens à ce qui s'est passé l'autre soir pour ces 35 ans. Tous les gens étaient là pour vous fêter, bien évidemment. 35 ans après, mais il y a 35 ans, lorsqu'on était comme vous, artisans du porno, artisans du X, quel regard est-ce qu'on portait sur vous ? Qu'est-ce qu'on vous disait ?
Bien, à l'époque, j'ai trouvé en commençant à produire ma première cassette vidéo que je rentrais dans un monde un petit peu de liberté, contrairement à. À l'époque où j'étais éditeur, parce que d'ailleurs les premiers films que j'ai faits, j'ai toujours fait en mix mon roman photo et le film en même temps. J'ai oublié de vous le dire. Ouais. Et j'ai arrêté au bout du cinquième film parce que ça revenait beaucoup trop cher. Ça faisait une double production. Et à l'époque du bouquin, donc il y avait des tas de contraintes, des interdits au journal officiel, des convocations à la 17e chambre correctionnelle pour outrage aux bonnes mœurs par la voie du livre. Enfin, il n'y avait vraiment pas de liberté et des saisies de bouquins et autres.
Vous étiez un affreux Jojo.
Voilà, vous étiez un desperado. Ça me faisait penser un petit peu à Elliot Ness, vous savez, les séries qu'on voyait, la prohibition aux États-Unis. Le bouquin, c'était la même chose. Le porno, c'est ça, il faut saisir. Voilà. Alors qu'en arrivant dans le film, ça a été tout autre. Je me suis retrouvé comme un pion indispensable au vidéoclub. Vous savez, à l'époque, quand j'ai démarré, c'était en 79, c'était tout à fait au début de la vidéo. On commençait à importer quelques magnétoscopes du Japon. Hein. D'ailleurs, ils ont été bloqués à un moment à Poitiers,
oui.
Comme d'autres.
Oui. En d'autres temps.
Mais ça, c'est des magnétoscopes qui ont été bloqués. Et après, parce qu'il y avait le contrôle d'échange et ça revenait trop cher. Ça, oui. Voilà. Et indépendamment de ça, bon, à partir du moment où j'ai commencé à faire de la vidéo, c'était un produit indispensable au vidéoclub, puisque ça représentait 30% à peu près de leur business. Oui. Et les cassettes vidéo porno leur revenaient moins cher que d'acheter des films traditionnels. Voilà. Donc, c'était indispensable pour leur business. Et moi, bon, je suis rentré dans ce club... Et j'ai fait des salons, et alors que c'était impensable à l'époque où j'étais dans le livre. Et puis, j'ai pu produire les films dont j'avais envie de faire, malgré que je m'auto-censurais quand même. Hein,
ouais.
Toujours interdit au moins de 18 ans.
Bien sûr.
Voilà. Mais bon, c'était quand même un milieu... J'étais reconnu par un milieu professionnel.
Mais aujourd'hui, c'est au-delà de ça.
Ah oui,
c'est ça
mais
que je veux dire.
Le milieu professionnel qui... Je faisais du porno, ok, mais c'était quand même de la vidéo. Voilà, donc je faisais partie d'un milieu professionnel du film, de la vidéo.
Marc Dorcel, pour maintenir le cap pendant 35 ans, justement, il faut aimer les affaires, bien sûr, et il faut aimer son indépendance d'esprit, d'action, il faut aimer le cul.
Oui, mais bon, en 35 ans, il s'en est passé des choses. Hein, c'est vrai qu'au départ, j'étais l'artisan. Hein, je produisais 4 films par an. Ouais. Ensuite, c'était 6. Après, je me suis dit, je ne produis pas assez. Il faut que j'achète des films, des droits de distribution. Absolument. J'étais assez réticent pendant longtemps à le faire parce que j'aimais que la production française et je trouvais que la production américaine ne plaisait pas tellement en Europe. Mmh. Et il y avait que les Américains qui produisaient des films assez sophistiqués, mais ça ne correspondait pas toujours au goût français. Et bon, de fil en aiguille, il y a eu la cassette vidéo, il y a eu le DVD. Après le DVD, il y a la VOD, il y a eu une chaîne télé.
Absolument.
On a ouvert des boutiques, il y a eu une ligne de lingerie, on a un magazine. Enfin, vous voyez, tout ça s'est accumulé, et ce qui fait que Marc Zancel dure encore, et, oui. Parce qu'il y a toujours des nouvelles cordes à son arc.
Voilà. Est-ce que ça vous émeut toujours ?
Oui, toujours, parce que je suis quand même assez émerveillé de voir, moi, démarrant au départ avec... pratiquement tout seul, avec deux ou trois personnes autour de moi. Et là, maintenant, on a un groupe audiovisuel assez important, puisqu'on est plus d'une soixantaine, je crois, à travailler dans la société, sans compter les freelances extérieurs.
Et le sexe tel que, par exemple, aujourd'hui, peuvent le filmer des gens extrêmement talentueux. Je pense à Fred Coppula, qu'on a croisé l'autre soir, à ce génie de l'image d'Hervé Baudilis. Ça vous touche encore, vous ?
Oui, ça me touche parce que Hervé Baudilis, quand il a sollicité à travailler pour nous, au début, il nous a montré ce qu'il faisait. Bon, c'était pas aussi sophistiqué que je le désirais, mais j'ai tout de suite vu dans ses images qu'il y avait un petit peu mon image. J'ai l'impression, sans avoir la grosse tête, j'ai l'impression qu'il marchait, c'était sur mes traces. Et il aimait à peu près les mêmes choses que moi. Bon. Il est assez fétichiste, oui. Il aime les belles nanas, oui. La sophistication. Oui. Donc, quand j'ai vu son image, et petit à petit, on lui a donné les moyens de faire des prods à la hauteur de ce que nous, on aime, eh bien, on est très satisfait de la collaboration qu'on puisse avoir avec lui.
J'aime beaucoup la définition que vous en donnez, finalement, au creux du porno. Ça doit rester beau.
Pour moi, c'est indispensable. Je crois qu'il faut donner du rêve. Et le rêve, c'est l'envie, ce qui n'est pas toujours accessible au commun des mortels. Voilà. Qui oserait aborder la plus belle nana à droite, à gauche, alors que dans les films, il la voit aller à sa portée, il la voit se déshabiller, il la voit faire l'amour. C'est inespéré, c'est formidable. Alors que... on donne du rêve, en fin de compte.
Et ça va continuer encore longtemps. C'est tout le mal qu'on se souhaite tous, finalement. Luxure, depuis 1979, qui peut en dire autant ? Marc Dorcel, 35 ans aujourd'hui. Ça fait 35 ans que, grâce à lui, on voit tous la vie en rose. Un grand merci, Marc. Just spéciale dédicace à l'empereur forever, Marc Dorcel, La vie en rose. C'était Grace Jones sur France Bleu 107. France Bleu.